vous mettez en face ou au premier coup?
Ah ouais, je fais du petit wiki quand tu es là.
Je vais mettre par là, moi.
Il nous manque encore des gens.
Il y en a deux ou trois.
Deux ou trois. Tu peux jouer un jeu en attendant.
Chaise musicale.
Non, mais alors, ok, donc on a canal IRC de Linux Québec, on peut aller poser des questions. Moi, j'ai toujours pas configuré ma carte, je sais pas si je vais y arriver maintenant.
Une carte impayée.
Mais non, c'est une Linksys PCMCIA. Puis les Linksys, c'est le problème des drivers qui sont pas. Mais avec Andy Swrapper, je devrais y arriver.
Une bonne idée. Non, on est bien avec des NCMA, le point B là, en général, pour ça.
Point quoi?
Le point B, les B ou le DG.
Ouais, c'est ça.
Moi, je connais. Parce que le DG, c'est maintenant, quand les fabricants sont paresseux, ils mettent tout le firmware dans le hardware. Ils mettent tout sur un fichier qui est loadé à chaque fois. C'est ça, le firmware, ils ne vont jamais donner une nouvelle. Et si tu n'as pas ce fichier-là, tu peux pas, t'as beau avoir un driver comme la prise 54, ce que j'ai. Si tu n'as pas le firmware, le fichier, tu ne l'as pas de place à un tel endroit.
Mais tu peux quand même le.
Mais si le driver.
Il faut que tu ailles dans Windows pour aller chercher.
Oui, ou il y a quelqu'un qui met un site pour aller chercher le fichier. C'est moins compliqué.
Ok, alors. J'ai l'immense privilège, l'honneur et l'avantage
de vous présenter nos deux conférences ce soir. La deuxième conférence, donc, c'est Marc Laporte ici présent, qui est admin de TikiWiki, tout le monde connaît bien, je pense, beaucoup de
Marc, oui, Tiki, ah. Non.
Et puis Marc-André Lancio, je ne sais pas si vous le connaissez, lui, il est plus récent dans notre petite communauté.
Non, oui.
Mais moi, j'ai découvert parce que je me suis intéressé à TikiWiki, puis à Xoox. Et puis d'un communauté Xoop, je suis vite tombé sur le problème du multilingue et Marc-André a développé le hack multilingue de Xoop. Alors on avait la chance à Montréal d'avoir deux ressources importantes dans la communauté des CMS, deux CMS qui sont quand même assez prisés des francophones en général, TikiWiki et Xoop. Alors je me suis dit que ça serait marrant de faire un truc commun pour voir est-ce qu'ils vont se taper dessus ou est-ce qu'au contraire on va trouver des terrains d'entente et des choses communes. Puis au-delà de ça, évidemment, il y a la problématique des gens qui sont, je veux utiliser un CMS, puis est-ce que je m'en vais vers Tiki, est-ce que je m'en vais vers Xoop, est-ce que c'est des choix qui sont, comme dans le monde propriétaire, finalement je suis Mac ou je suis PC, je me tape sur la gueule, ou est-ce que c'est des choix complémentaires, est-ce que je peux de temps en temps utiliser un Tiki, de temps en temps utiliser un Xoop. Alors c'était toutes ces questions-là que je voulais aborder ce soir. Puis comme c'est très décousu, on avait décidé d'y aller. On s'est rencontrés il y a deux jours, puis on a dit que, comme on ne savait pas où on s'en allait avec cette conférence, on avait commencé par poser la question à la salle. Utilisez-vous des CMS? Oui, non, lesquels? Alors, s'il vous plaît, un petit tour de table, on va commencer par là. Utilises-tu des CMS?
J'ai essayé, j'ai utilisé, je me suis
posé,
j'étais en blog.
T'étais en blog, ok.
C'est un peu. Oui. Parce que quand, j'aime la faire des CMS. Quand c'est là que les blogs
plus présent, ça correspondait
plus à mon besoin.
Moi, blog.
Je l'ai amené blog, mais je l'ai amené comme un site
avec
mes éléments
que
j'ai besoin.
Ok, donc
tu as
tweaké un blog.
Et aussi, le gros point, c'est simple, instantanément. C'est que je suis beaucoup plus à l'aise à l'intérieur de ça. C'est tout du PHP qui est là, donc tout le module de formation séparée. Je suis beaucoup plus à l'aise que dans les autres que je trouve dans mon.
Quel
blog, sauf, puis, ok. C'est une question de. Oh, ouais. Pour moi, c'est fini. Je viens d'abord. Je viens d'abord. Le blog et le wiki, ça va encore être sur les autres.
D'accord. Ok. On va continuer rapidement. On va faire le tour.
Moi, j'ai essayé WordPress. Et je trouve très très bien. Parce que je passe à DocClear. C'est DocClear que j'utilise présentement. Les deux sont très 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 bien.
Bon,
DocClear, il y a beaucoup de plugins, beaucoup de thèmes. Tous les éléments, il faut faire un accès à l'information. C'est équivalent à WordPress.
Mais WordPress, ça fait juste du blog, par exemple. Mais bon, on y reviendra là. CMS, pas CMS?
Ben, en fait, on ne l'utilise pas encore parce que je vais être le stagiaire de WorkCoverage.
Ah, ok. Ok. Fabien, toi, tu utilises ça en CMS? Non?
Moi, j'ai même été admin d'un truc qui était une version de PHP New. PHP Puke. Non, c'est ça. J'ai fait le tour en commençant par des essais. Ensuite, je me suis dit, il n'y a rien, fait que je vais le faire. Finalement, j'ai adopté ça aussi assez rapidement. Puis quand on voit des projets de cette envergure-là, on se rend compte que c'est loin d'être un problème. Là, j'ai un blog sur WordPress sur mon site. Dépendamment des situations, ça va être soit des blogs et ou des wikis.
C'est ça, c'est un petit outil bien spécifique, un usage de
D'accord.
On continue
Oui, on ne sert pas.
Je t'en sers pas du tout. Zoops.
C'est sur Venus Québec et Zoop, le personnel et donc site Wiki.
Ok. Super. Moi j'utilise les deux. Zoops et Tiki Wiki.
Oui, je m'en suis.
Jamais utilisé. Ok.
Téléphone.
Je ne pas non plus.
Toi,
je sais que tu utilises Zoops. D'ailleurs, t'as un petit Zoops dans le vent.
Un peu l'utilisateur
des groupes.
Moi,
justement,
je
suis
en train de
faire un site
classique
en
dynamique.
Parfait.
Valérie
Cobaye, on l'a trouvé. Comment ça, c'est incroyable ça? Ça veut dire qu'il n'y avait rien de mieux que le HTML statique.
Non, pour des trucs
simples. Ça
va. Alors maintenant, là je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens proches de Linux Québec qui sont qui programment eux-mêmes, hein, qui sont donc capables d'aller assez loin. Comment? Non. Mais c'est ça, la problématique du CMS, enfin, à mon sens, ça s'adresse plus à des gens qui publient, des gens qui ont besoin de publication web, qui ne sont pas forcément des développeurs eux-mêmes. Et donc, ils ont le choix finalement entre le monde propriétaire. Est-ce que j'y vais avec Dreamweaver, avec Microsoft FrontPage? Est-ce que j'y vais avec des outils à 2000 piastres, 3000 piastres, 4000 piastres, 15000 piastres?
Oui.
Ou est-ce que j'y vais avec une solution propriétaire montée par une compagnie, machin truc qui me vend?
Tu parles ta compagnie, tu fais ton propre outil.
90 000 dollars, je vous fais ça va aussi, tu vas rouler. Ou alors est-ce que tu t'en vas vers un CMS? C'est ça. Alors quel est l'avantage d'après vous, messieurs, des CMS versus le monde propriétaire? Déjà, pour commencer.
Je te laisse répondre à ça. Je pense que toujours partir des besoins. Il n'y a pas une chose qui est la solution pour tout. Comme vous savez, on le sait probablement, je suis membre du FATIL, je suis impliqué dans l'open source. Je gagne ma vie avec les logiciels open source. Quand j'avais besoin de choisir un logiciel pour faire ma comptabilité, que je faisais avant avec Excel, j'ai décidé de prendre un logiciel, de regarder ce qui était disponible dans l'open source, puis à la fin, j'ai acheté Quicken pour 100$. Même si on y croit, l'open source, c'est pas toujours ce qu'il y a de. C'est pas toujours la meilleure solution. J'avais pris un SQL Ledger, je me serais tapé, capacitaire pour essayer d'installer, de comprendre, démêler ça. Est-ce que Quicken, double-clic, double-clic, faire un garde un problème. Bon. C'est pour regarder, pour partir, c'est quoi nos besoins à court terme. Il faut essayer de penser qu'est-ce qu'on pense que nos besoins vont être dans 3, 6, 12 mois. Je vais même regarder un petit peu plus loin parce que une fois que quelque chose est installé, on va avoir tendance à le laisser là parce que sortir nos données de ça pour les rentrer dans autre chose. J'ai encore un site qui roule avec Continue. C'est 10 000 articles là. Ben là, il faudrait écrire un script pour migrer ça vers l'article. Ça ne vaut pas la peine, ça marche, ça ne touche pas. Pour regarder aussi à quel point est-ce qu'on pense qu'on va le faire souvent. Des systèmes comme WordPress, on a vu que plusieurs qui l'utilisent. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je le vois souvent sur le web. De ce que je comprends, c'est un qui est très facile à installer. Donc, ça, c'est important. Si on ne va pas nécessairement faire ça souvent, ça nous prend un système satellite. Peut-être que souvent, on en discutait, quand moi, je choisisse des CMS, peut-être qu'ils vont en prendre un, ils vont essayer, ou une heure, s'ils réussissent pas à l'installer, ils vont en prendre un autre. Finalement, à la fin, c'est le premier qui va bien marcher, c'est le premier coup qu'ils vont choisir. Mm.
Puis, s'ils fonctionnent bien, ils vont se concentrer dans ce CMS-là. C'est un peu ce qu'on a fait. Puis, malheureusement, le downside de ça, c'est qu'on a tendance à oublier tous les autres après. C'est plus vraiment le temps à mettre pour apprendre. Marc me racontait qu'il y a plusieurs années, il a fait une étude des CMS et il a étudié Zoom, ça n'est pas. Mais depuis ce temps-là,
je peux digérer. Il y a à peu près un an et demi, là, je peux comparer pas mal toutes les CMS, vous avez tout essayé, tout ça. Mais là, c'est sûr que les choses évoluent bien rapidement dans ce milieu-là. Mm. Parce qu'on est aujourd'hui, j'en vois beaucoup les gens justement qui font des études comparatives comme moi j'ai fait à un moment donné. Puis ils arrivent sur le site, mettons, ils arrivent sur la chaîne IRC, ils me demandent des questions. C'est difficile de faire une bonne analyse comparative parce que il y en a au moins, après moi, au moins une trentaine de CMS qui sont comme majeurs, qui sont importants, qui ont une bonne communauté. C'est au moins 3 à 5 heures chaque pour l'installer puis se l'idée. Sur la terre, il y a un truc que opensourcecms.com qui les a déjà tout installé. Tu peux y aller avec sont installés puis un refresh de la base de données à chaque heure. Donc tu peux juste avec rentrer admin à l'une. Mm-hmm. Tu peux scraper les sites une heure plus tard qui sont venus. Donc au moins, tu n'as pas besoin de te les installer. Là, tu peux essayer comme site administrateur les différentes choses. L'autre chose, c'est que souvent, au niveau
de la... Juste un petit une question, là, est-ce que c'est assez rafraîchi souvent, là, est-ce que c'est des versions récentes? Est-ce qu'il y a des problèmes?
D'habitude, c'est les dernières versions stables.
Ok.
C'est assez...
Tiki, par exemple, ils le tiennent bien à jour?
C'est pas eux qui sont nécessairement... Ils vont pas suivre notre mailing list pour savoir que... Ben, mettons, à un moment donné, j'ai remarqué que t'es encore à version 1.82, j'ai écrit, là, 1.84.
Ok.
Peut-être aussi un élément d'information aussi qui va complémenter ta suite de l'exercice de ça. Quand tu arrives à installer, qu'après une heure, tu as des problèmes, tu mets vraiment de côté, mais ça donne aussi peut-être une idée de base de la qualité.
Mm-hmm.
Parce qu'au départ, un programme d'installation, hein, puis qui doit faire en sorte une base de données qui doit être automatisée, qui devrait être très simple, si ça passe bien, puis que tu es beau, puis que tu es bien celui-là, tu te parles là, quelque chose qui est peut-être bien solide. C'est pas le cas.
Je pense que ça nous amène justement dans le défi. Je pense que ce soir, on voulait parler un peu plus. Oui, on peut parler des CMS, on peut faire des comparaisons, des informations, mais parler de comment ça se passe le développement dans un projet open source.
Mm-hmm.
On utilise open source, mais c'est quoi dans la vraie vie les gens qui le développent? Ça, c'est un bon exemple. Je vais aller là-dessus. C'est que
je pense qu'on peut plus s'en aller sur cette piste-là, vu l'auditoire.
C'est ça. Les gens qui écrivent. Le CMS, eux autres n'ont pas besoin de script d'installation. Ça ne sert jamais. Donc, ça veut dire que...
Bon, je ne pose pas trop la question, est-ce que ça s'installe bien ou pas?
C'est ça. C'est le même problème avec la documentation. Les gens qui développent n'ont pas besoin de cette documentation-là. Fait que c'est sûr que les points faibles tout le temps des CMS, c'est généralement l'install,
la documentation. Et le support en général.
Le support en général, mais c'est une chose que les développeurs ne font pas. Un manque d'intérêt, puis en sorte que ça donne une mauvaise. Des fois, ça peut donner une très mauvaise impression du CMS. Tu ne peux pas l'installer, ça ne fonctionne pas. Puis c'est peut-être un très bon moment. Mais tu ne te rendras jamais à cette étape-là.
Là, je pense que c'est là que les applications commerciales ont leur force. Parce que la documentation, la facilité d'installation, un programme Windows, là, tu double clic. Ça fait snack, tu peux installer.
Tu viens de scraper ton registre.
Et tu payes plus longtemps que ça fonctionne. Donc, je pense peut-être que la situation mitoyenne qui va aider à améliorer les logiciels d'installation et la documentation, c'est quand un logiciel a assez de compagnies qui vont le supporter au niveau commercial. Donc, on voit déjà que quand les grosses compagnies comme Nobel et IBM embarquent dans quelque chose, ils amènent des grosses ressources. Ils amènent.
Mais ça, ben justement, ça, c'est intéressant parce que. Aussi, vous êtes là tous les deux parce que vous représentez chacun une petite compagnie qui se monte autour de projets reliés à ces CMS-là. Puis, est-ce que... Ça, c'était une des questions qu'on se posait. Est-ce que c'est un plan d'affaires? Est-ce qu'il y a un avenir dans le support d'un CMS?
Est-ce que si je vais sur le site de Tiki, je peux trouver facilement Marc Laporte, consultant, ou c'est pas si clair que ça?
Je
Il nous communiquait que c'est un wiki à la base, un wiki par défaut, c'est très chaotique. Même si tu peux mettre des pages, donc il y a plus que 1000 pages sur wiki.org. Donc c'est pas évident nécessairement de trouver la page que tu cherches. Mais oui, il y a une page qui s'appelle Find Wiki Expert. Puis là-dessus, tous les gens qui sont impliqués dans la communauté, qui offrent des services professionnels, leur nom est là, c'est avec quel pays qui est pris. Donc oui, je suis là, oui, ça me donne une certaine visibilité pour le site. Mais en général, le site de wiki n'est pas super facile à naviguer. Tu saches qu'est-ce que tu cherches.
Mais maintenant, si vous êtes sur wiki.com, c'est comme super
évident. C'est pas le nom de
.com,
je ne sais pas si t'as dit.
Non, parce que des fois, c'est plate à dire, mais si je veux le vendre à un client, souvent, des fois, j'ai des affaires ridicules comme ça. Ok, j'en vais une boîte. Non. Mais combien de temps ça va prendre le shipping? D'ailleurs, j'ai commandé des stickers Linux pour des machines pour l'instant, parce que sinon, ils n'ont pas l'impression que je suis. Puis, par contre, quand on montre une affaire où est-ce qu'il y a, comme tu dis, répertoire des experts publics, des organismes, ça, c'est comme la face commerciale du projet. C'est-tu évident dans
les autres projets? Par exemple, Typo 3 est fait ça de façon excellente. Quand c'est typo3.com, qui est vraiment le côté commercial, dans lequel tu vas avoir la liste de 150 ou 200 différents des boîtes. Comme nous, on a deux petites boîtes autour de...
Comme MySQL ou comme...
C'est ça.
Top qui font
là, il y a typo3.org qui est vraiment le côté communauté. Mm-hmm. Donc, c'est bien fait. Zoop, c'est assez bien fait aussi. Combien de consultants Zoop? Un nombre, c'est des centaines.
On peut l'enlever aussi, un peu d'enlever.
Ah ouais,
c'est
vrai. C'est grave de l'argent, juste parce que c'est réellement l'agence qui a ça, qui a ça. Mais nous, c'est ce qu'on pense, ce qu'on a vu.
Ah ouais?
Moi, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis fasciné par le phénomène open source. Vraiment, vraiment fasciné de ce que les communautés de gens sont capables de produire pour rien. Pour, à la base, il n'y a pas de rémunération directe. Et souvent, tu vas réussir à faire quelque chose, que tu vas redistribuer la communauté, tu vas bénéficier à tes membres. Nous, dans le fond, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est qu'on est capable de réussir à trouver des clients pour leur vendre un service qui vont ensuite bénéficier à la communauté. Ça, en soi, je trouve ça incroyable. On parlait hier et Marc m'expliquait qu'il y a des recherches qui se font sur le phénomène open source. Puis, ils se sont rendus compte que le profil type développeur, le jour où il travaille, il développe un type de contenu. C'est un peu comme ça que c'est d'ailleurs. Puis, le soir, il arrive chez eux, il perd des choses qu'il aime. Puis, il fait vraiment triper. Ça, c'est l'open source. Puis, ils se sont rendus compte que ce serait très difficile d'offrir un super montant d'argent à cette personne-là pour que ce soit aussi productif le jour qu'il y ait le soir gratuitement. Et ça, c'est fantastique.
C'est capable d'accomplir
avec ça.
Et c'est toujours un client qui a un produit que tu utilises et qui a gratuité?
Oui, absolument.
Donc, il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas.
Moi, je ne dis jamais que c'est gratuit. Jamais, jamais.
Mais c'est pas gratuit.
En fait, je leur dis que ça coûte au moins deux fois plus.
Pourquoi?
Parce que j'ai un taux horaire de consultant qui va coûter deux à cinq fois plus que s'il achetait le même logiciel. Mais je parle de distance que ça fait. As-tu plus de sens payer X pour une licence de Y ou payer le gars qui va te montrer comment ça marche, comment le modifier, comment faire les rapports de bug qui vont être corrigés dans deux ou trois semaines? Je l'ai fait pour Mozilla beaucoup, puis les clients capotent. Je reviens. Salut, qu'est-ce que tu fais? J'installe la version 1.0 de Y de WWE. Hein? Mais l'autre est là. Ça fait deux semaines que l'autre est sorti. Ah oh, ouais. Mais ça veut dire quoi, cette version? Parle-moi français. Oh, il y a 251 bugs de réveil. Hein? Combien ça va nous coûter? Ben, je vais être une demi-heure. Moi, je peux chercher les prix les plus fous en toi avant, là. C'est le client, il trouve qu'il... En fait, il y a un client qui m'a dit, franchement, là, qu'est-ce que tu nous cherches? Parce qu'on a l'impression qu'on abuse de toi. Moi, j'ai la même impression, fait que tant qu'on maintient ça, ça va vous abuser ça.
Ouais. Je crois qu'il y a des psychologies quand les gens, les clients, les clients, ouais, ils aiment, en fait, quand il y a un niveau seul, ils ont l'impression que les trucs, ils...
C'est sûr qu'il y en a a priori, que quand tu payes quelque chose, normalement, c'est que tu vas en avoir pour ton argent, puis au moins tu pourras gueuler, ça marche pas. Alors que là, tu pourras juste pleurer, ça marche pas, en fait.
Tu peux regarder pour revenir à ta question, y a-t-il un marché, y a-t-il de l'argent à faire? Regardez, je peux t'expliquer, c'est un service. Qu'est-ce qu'on vend, c'est une espèce d'expertise. Donc, c'est sûr que n'importe qui pourrait aller se bâtir cette expertise-là. Je pourrais dire, moi, je vais former quelqu'un dans mon entreprise qui va apprendre à faire fonctionner le CMS, tout ça. Là, il se pose la question, sa job, c'est-tu de vendre des pneus ou de louer des choses ou c'est de faire les sites web? Donc, il va sortir de bord, il va me dire, bon, je vais chercher quelqu'un qui a cette expertise-là, qui va faire ce service-là.
Ou il va t'engager pour former le gars qui veut.
Ça arrive, c'est
oui,
j'ai une question à poser, que tu viens de dire tout à l'heure. La personne qui le soir qui travaille dans cette société, comment il paye son job?
Il a sa job le jour où tu fais son logiciel de
compétition. Ah bon, tu penses que maintenant ça marche comme ça.
Ok.
Ça
dépend
des. Pour tous les projets open source, les gens ils travaillent, ils sont pas au chômeur, enfin.
Ben, il y a aussi
premièrement.
Non, mais il y a aussi un autre aspect. Regarde, par exemple, tu as une problématique éditoriale. Tu vas regarder ce qui se fait en open source. Tu as des bases qui existent. Là, je pars du principe, je ne sais pas d'où il vient TikiWiki, qui l'a développé, pourquoi. Je ne sais pas d'où il vient WebZoops. Mais il y a des bases qui existent, qui sont utilisables. Tu les prends, tu les utilises. Et à un moment donné, tu frappes un mur. C'est-à-dire qu'il y a une fonction que tu veux ajouter, qui n'existe pas. Là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Ça n'existe pas, puis moi, je ne suis pas capable de les développer, je ne suis pas programmeur. Donc, tu as deux choix. Soit tu scrapes tout, soit tu dis, ben, je vais payer un programmeur pour qu'il le développe. C'est-à-dire, je vais payer peut-être un one-shot pour développer une fonction importante. Je vais payer 100, 200, 500, 1000, 2000, 10 000 $.
Ou si tu es patient, tu attends que
Mais je vais bénéficier de tout le reste gratuitement parce que les autres ont payé pour ça. Là, je pense que c'est un modèle qui est de plus en plus viable, sur lequel on devrait entraîner les gens.
Mais tu crois pas qu'il y a une raison que le point de vue fonctionne, c'est pour le très haut niveau de chômage, les programmeurs, les développeurs. Je crois que les gens qui développent en open source, c'est des gens qui l'utilisent. Moi, je n'ai pas développé pour TikiWiki, c'est juste pas TikiWiki. J'ai passé 4-5 heures sur un truc. Par contre, vous, j'utilise. Je développe des trucs personnels. Des fois, pour des amis, parce qu'ils veulent un truc, c'est pas trop compliqué, je le développe. Et après, je leur dis, salut, c'est le principe. Je crois qu'il n'y a pas des développeurs qui vont travailler là, et puis le soir, ils vont développer pour TikiWiki ou autre ou le truc comme ça. Il y a toujours un but.
Mais pour chacun, c'est différent, les raisons pour lesquelles c'est un projet. Et moi, j'ai
des gens. D'autres raisons de
développeurs pour faire un truc. Moi, je te dis, tu vois. Mes parents sont en Colombie. Je veux encrypter avec eux. Moi, je suis sur un projet de chiffrement sur les réseaux. Moi, je m'en vais leur dire d'acheter un Mac. Mon premier réflexe, c'est de voir s'il y a un projet open source pour Mac qui fait ce que je veux. J'ai jamais utilisé le Mac, je connais pas Mac. Je parle espagnol. Moi, j'ai fait la traduction espagnole du projet Mac GPT.
T'as un lien familial, t'as un lien personnel avec toi.
Oui.
Si, moi, donc, c'est un utilisateur.
Moi, je ne vais pas m'en servir.
D'accord, mais regarde, imagine Marc qui te dit sur TikiWiki, il m'en fait l'option. Tu vas passer des heures à développer ton truc?
Ça dépend.
Tu as du temps, oui, tu es chômeur, tu as du temps, tu peux le faire.
C'est donnant. Pourquoi lui, il va me chercher? Parce que j'ai une expertise. Lui pourrait me dire, ça vient pour essayer. D'ailleurs, il m'a déjà invité à participer parce qu'eux, ils voulaient intégrer un module PHP. Puis ils savaient que moi, j'étais dans ce projet-là. Ça te tente-tu de venir ici? En fait, je suis officiellement développeur de TikiWiki, mais je n'ai jamais écrit une ligne de code. J'ai l'intention de le faire à très court terme.
Mais tu as passé combien de temps? Une demi-heure en disant, ouais, ça se fait comme ça, ma chère.
Non, j'ai passé 4 heures, là, une soirée, à leur expliquer pourquoi ça faisait aucun sens de faire ça.
Ça, c'est des exceptions, je dis, entre amis. Mais on avait...
Non.
Moi, pour la communauté, des fois, je développe des trucs, des gens que je connais même pas, des Allemands, des Anglais. Je passe des soirées parce que je sais que la personne va être contente à la fin. On va dire, tiens, vous, c'était bien, la communauté a réagi.
Tu vas attirer une satisfaction.
Ça va marcher en fait pour la communauté entière. Il y a un truc qui va fonctionner, il va être content, mais il va être
satisfait. Il y a énorme de ce que ça fait.
peu compliqué.
Mais soit il n'y a pas de raison. C'est pas une question de gagner, en fait. Pour moi, c'est pas ça. C'est que quelqu'un m'a demandé quelque chose, ou moi, j'ai trouvé mon compte ou pas. C'est pas tellement ça. Des fois, je fais des trucs uniquement parce que je crois en la cause, en général. Mm-hmm. Pourquoi je recycle du papier que je gagne là-dedans?
Non, mais le problème, c'est que quand tu fais ça pour la cause, tu vas le faire peut-être aujourd'hui, tu feras peut-être pas demain.
Et puis,
ce que tu as fait aujourd'hui, ça marche pas demain, comment je vais faire moi qui l'utilise pour le faire marcher?
Ben, je suis pas tout seul. Et d'ailleurs, il y a des projets pour ceux qui crèvent, qui meurent. Il n'y a pas de demande.
Ouais.
Donc, c'est clair. Les CMS dérivés de PHP News, il y en a eu là, en voulez-vous, en là, moi j'en ai eu. Ils sont morts parce qu'il y avait.
Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'à un certain point, ils dépendent de leur avenir commercial. C'est-à-dire, je pense qu'ils dépendent de l'utilisation qu'on en fait, puis de la masse critique qu'il y a d'utilisations qui sont faites et qui fait qu'on ne peut pas les abandonner. C'est ce qu'on disait tantôt. C'est quand tu as mis déjà toute ta base de données dans TikiWiki ou dans Glux, à un moment donné, là, tu te dis, ah, t'as bien, je ne vais pas recommencer ça. Donc, c'est mieux de continuer à le débugger, c'est mieux de développer des nouveaux, des nouvelles fonctionnalités.
Puis la beauté de ça, c'est que s'il y a 100 000 utilisateurs, eux vont créer leur propre communauté à côté. Mm. D'ailleurs, il y a plein de projets qui passent comme ça.
Mm-hmm.
Parce que ça dépend des points de vue.
Pas toujours la pire affaire, je regarde Xfree et Xpod.
Ouais.
La meilleure chose qui a pu arriver à Xfree, c'est qu'ils changent leur licence, tout le monde a dit, ben là, je
suis là
pour faire dans une autre direction.
Il y a un type dernièrement qui a dit, c'est une clause dans mes licences open source qui dit que tu peux réclamer de faire enlever ton code. Fait que là, il a dit, moi, je réclame qu'on enlève tout mon code. Puis là, tout le monde s'est fait ça, mais on peut pas faire ça, si on a besoin de ton code, c'est bien. Ouais. Pendant que tout le monde se chicanait, il y a un autre gars qui a dit, ok, moi je fais un reverse engineer, puis je refais tout ton code de zéro, ça y est, pris une semaine, puis merci bonjour, moi je vais déployer.
C'est ça la question de la triplicate, tu veux parler de la licence parce que.
C'est ça, ça dépend de.
Quand tu une fois que tu veux distribuer un GPL, tu l'as distribué, tu peux pas le reprendre.
C'est pas GPL. Mais bon.
Mais là, moi je vais revenir sur toi, Philippe, qui avait dit que. Tantôt, tu avais l'air surpris ou pas d'accord, plus pas d'accord que surpris du programme artiste, du programmeur le jour, mais le soir, de façon très open source.
Comment tu payes son loyer, c'est-à-dire le.
Mais je pense que c'est sûr que chaque développeur, chaque projet, c'est l'histoire, c'est bien différent. Le gars qui run, par exemple, au 3, il y a 50 000 piastres US par année dedans qui lui arrive. Donc, ça va être déjà dans son année, plus tu fais de la consultation. Il y en a d'autres que, quand nous autres sont Tiki, il y a du monde, il y en a qui étaient sur le chômage, qui parlaient que c'était sur le chômage, ils ont peut-être faire ça. Il y en a qui font ça le soir, il y en a qui font ça bénévolement. Tout ça,
c'est que moi, ce qui me bug un peu, ou que la fête, quand même, à un moment donné, on a dit, c'est un bénévolat. J'ai eu une période où je travaillais énormément sur des projets. J'avais pensé que le soir ou tout, j'aurais fait des choses. J'étais absorbé par un travail absolument. Mon accord est parti. Mais moi, ce qui m'embête un peu, j'ai des discussions un peu, là, peut-être moins de là, mais deux, trois personnes, puis il y a des questions, il y a des questionnements sur le local source. Oui, c'est intéressant de la faire, mais est-ce que ça peut tomber? La personne, justement, fait ça un peu en temps. Là, oui, une belle job à part, et pouf, là, il y a des. C'est quoi toute la première? Parce que quand c'est dans du propriétaire, ben, t'as un suivi.
Mais c'est dans le monde du. Si tu penses comme ça, c'est que dans le monde du.
Non, gratuit. Excuse-moi, moi qui parle comme ça.
C'est dans le monde du gratuit. Si tu veux avoir.
Tout,
puis t'attendre à ce que ce soit de qualité, puis que ça continue à être maintenu, ben, t'as rien payé pour, il n'y a aucun contrat, t'as rien.
Non,
non. Tu vas voir ce que les gens vont avoir comme temps à t'offrir.
Dans les gens qui sont
en
entreprise, il y en a qui ont de. C'est gratuit.
On voit comme ça, c'est un côté.
Une bonne intro, peut-être, on avait une des questions qu'on voulait regarder.
Est-ce que les clients acceptent d'investir en open source?
Non, c'était juste comment on devrait
est-ce qu'il y a un modèle de
choisir son comment on devrait choisir un projet comparé à un autre?
Ah, tu veux dire en tant que développeur?
Non, en tant qu'utilisateur.
Comment on devrait choisir un système par rapport à un autre?
C'est ça.
En fait, tu devrais faire en tant que client.
Ouais.
Oui. Toi, tu es sur SourceForge, là, puis là, tu veux un logiciel qui fait X. Là, tu regardes ça, là, puis il y en a 40.
Comment tu choisis?
Comment tu choisis?
Ça dépend si c'est pour toi, puis tu es un développeur, ou si c'est pour toi, mais pour un client, mais que tu es développeur. Tu es capable de juger de façon différente, tu es capable de dire, OK, celle-là, j'aime bien l'architecture. Le code, OK, c'est dans tel langage, je connais ça, OK. Si jamais il y a de quoi, je vais être capable de faire les changements ou de régler des bugs. Mais là, c'est pas du tout le même genre de choix que tu fais que quand tu es juste dans ta maison, dans ton sous-sol, tu veux installer quelque chose pour ta blonde, de même pour le fun.
Mais en même temps, peut-être c'est un que Marc va plus dans le sens de la continuité du projet. C'est pour répondre à ta question. Moi, je regarde dans certaines composantes, je regarde. Est-ce que je veux installer ce projet-là? Okay. Est-ce que je peux faire un don en argent là? Parce que des fois, ben oui, si je vais charger tant d'heures au client, ben il y a une heure de 8 heures que j'y charge par jour, que c'est un don. Donc, est-ce que je peux faire? Il y a plein de projets open source que tu n'es même pas capable de savoir si tu l'as fait ou envoyer l'argent quand même que tu voudrais envoyer au client. Mm. Puis deuxièmement, ben, es-tu vraiment ouvert? Y a-tu vraiment le besoin? Je suis dans un projet de cryptographie. Le développeur principal, il faut lui supplier pour avoir le code source. Puis il dit, ben moi, je respecte la GPL, c'est disponible quand le monde me le demande. Mais non, mais c'est une grève, là, je ne pourrais pas se le demander, le code source.
Ça, c'est vrai, hein. Ouais. Il n'y est pas, là.
Donc, le code source, ouais. Es-tu là ou pas? Ben, les dons, les dons, là, c'est un affaire super de base que...
C'est bon. Moi, j'ai vécu des deux, trois expériences, et un, surtout que je me souviens qu'un gars bien sympathique, là, tu sais, tu racontes, puis là, j'ai vu à travailler. S'aperçu que ça partait avec son bébé. Aïe, aïe. Ça veut dire que l'open source, il y a 5 ans de ça, je ne pourrais pas y parler de ça pour lui. Là, c'était vraiment sur un petit élément, parce qu'aussi l'open source, puis c'est surtout vraiment ici, par rapport au programmeur, un côté, puisque là, tu regardes le code qui s'est fait, tu regardes la façon de travailler. Hein, tu peux dire à certains, là, c'est bullshité, tu as des problèmes de la terre.
Avec le personnel. Mm. Parce que là, on vient regarder. Là. Ouais. C'était pas le cas. Beaucoup de questions d'égo. Ouais.
Beaucoup d'égo.
Mais dans les projets comme ça,
n'entre pas être
développeur.
Non. C'est pas ouvert. C'est plus ouvert.
Alors, justement, ça, c'est intéressant parce que pour en revenir un petit peu plus à Xoop sur TikiWiki, moi, ce qui m'a interpellé c'est, au départ, c'était le fait qu'il y avait deux philosophies très différentes de développement et d'intégration des composants. TikiWiki, il y avait une intégration. Tu télécharges un logiciel complet qui vient avec tous les modules qui sont installés de base, qui ne sont pas activés, par exemple, si je choisis ce que tu actives. Et puis, ça s'arrête là. Alors, c'est l'offre TikiWiki.aligne. Il y a dedans ce qu'il faut, ce qui a été mon cas sur certains projets. Il y a d'autres fois, il n'y avait pas dedans ce qu'il fallait. Donc, ce que je devais faire dans ce temps-là, c'était contacter la communauté TikiWiki. Dire, hey, oh, ça me prend telle affaire, est-ce que ça tente quelqu'un de le développer? Si oui, comment on s'organise? Le faites-vous gratos dans combien de temps ou est-ce que je dois vous payer? Tu sais? Puis il y a la philosophie Xoop qui est dérivée de Nuke, lui aussi. Donc là, on a un cœur qui est lui très aussi. Il y a un petit noyau dur qui le garde jalousement et qui fait en sorte qu'il se développe comme du monde. Puis autour, il y a tout ce que tu veux comme module. Donc c'est l'approche modulaire. Top partie, les gens viennent, puis ils grèvent ce qu'ils veulent dessus, puis là, après ça, c'est free for all. Il y en a des bons, il y en a des pourris. Alors, ça, c'est deux approches différentes, puis je ne sais pas si ça vous intéresse comme sujet. Mais je me demandais.
Un truc que tu viens de dire, l'exemple de Clear, c'est que tu as même bien compris que c'est la base, et tu as deux vraiment éléments bien différents. C'est des plugins, des modules supplémentaires. Ouais. Là, la personne, il y a eu beaucoup de plugins qui ont été créés pour passer d'un blog à l'autre. Souvent, vous passez d'un ancien, d'un tel modèle à ceci. Il y a aussi des thèmes. Les thèmes, il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur ça. Mm-hmm. Ça m'intéresse plus. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est côté graphique. Donc, ils prennent les thèmes, ils font des améliorations, c'est là. Mm-hmm. Ça, il y a ça. Mm-hmm.
Mais alors, c'est ça, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux une architecture comme ça, tout intégrée à la TikiWiki? Donc, j'imagine que tu vas dire oui. Ou est-ce qu'il vaut mieux une architecture plus intégrée à la Xoop? Et chacun, qu'est-ce que vous tirez de cet avantage-là?
Je suis d'accord qu'on marque, ça dépend des projets. En fait, c'est
fait le semestre en autonomie par lui-même. Pourquoi moi, je présente que je développe un module, bien sûr, si tu peux pas c'est très rapide. Comment je fais si je veux, je télécharge physiquement, en fait, pour l'installer ou l'intégrer. Alors que dans les autres, j'ai juste à le mettre dans un dossier, ou dans une administration, ça installe tout seul. Je veux dire, ça me sent, j'ai l'impression que je suis limité. Il faut que je passe par une hiérarchie spéciale pour dire, je veux intégrer un truc dans Tiki, ou c'est pas aussi intuitif, on dirait. Moi, je trouve que c'est
un des avantages,
ça ferme le produit.
En principe, à ma connaissance, Tiki, c'est le logiciel, quand tu installes Tiki de base, c'est probablement le CMS qui a le plus de fonctions. D'après moi, il n'y en a pas un qui de base quand tu l'installes. Il y a des mondes quand même. Tandis qu'avec Zoot, ou donc avec Cosmo, ou 3, il y a moins de choses de base, mais tu peux avoir 100, 200, 300 modules différents avec Zoot. Dans Tiki, n'importe qui, il y a 270 personnes qui ont accès au CMS. Parce que n'importe qui arrive et qui a un projet de dire, moi, je veux ajouter un module homework. On est très, très ouvert. 270 personnes qui ont accès au CMS, je ne sais pas si tu connais beaucoup de CMS. Beaucoup de projets qui sont comme ça.
Il y en a combien qui accèdent pour vrai?
Il y a une centaine de personnes qui ont contribué au code.
OK.
Donc, c'est très, très ouvert. Là, la question, c'est là que ça dépend des cas, centralisé, décentralisé. Nous, c'est très centralisé. Tout le monde travaille dans le même CMS. Donc, il n'y a pas un API bien clair, bien strict, qui permet que si toi tu veux faire ton module third party, tu suis l'API, tu t'arranges pour que ton affaire plug dans l'API. Tu veux faire dans Tiki, tu arrives, tu prends une fonction qui existe déjà, tu peux te baser là-dessus, puis tu la modules, puis si tu es un peu plus expérimenté, tu peux partir de zéro, tu regardes comment ça fonctionne dans la librairie, tu écris ta propre fonction, puis tu la contribues au projet. Donc, je ne me rappelle pas qu'on ait dit non à du monde pour ajouter une fonction. Des règles sont comme contribue ton code release early, release often, comme je parlais de projet open source. La règle, par contre, c'est que ce soit optionnel. Tu ne peux pas forcer le monde que dans la prochaine version, ton module que tu as mis va s'installer par défaut, va être activé par défaut. Donc, le défaut, c'est non. Puis, il ne faut pas que ça brise quelque chose d'autre qui est déjà là. Ça, c'est là que moi, je pense que là, c'est la force. Un exemple d'une force d'avoir ça très centralisé. Quand Frank est arrivé et a dit « OK, moi, je veux faire un module de cartographie. » On n'avait pas pensé à ça, c'était pas prévu dedans. Il est arrivé et dit « Moi, je fais un module de cartographie. » Donc, ce que ça fait, c'est que le map server, tu as Tiki, puis tu as ce parler ensemble qui fait que tu peux avoir une représentation de la liste de tous tes users, par exemple, sur la base de Tiki, qui est mis sur une carte du monde. Super. D'après ça, il y en a qui disent « Ouais, mais ce serait le fun que les albums photos, que chaque photo, tu peux aussi ajouter une géolocalisation à chaque photo. » Ben, étant donné que c'est très centralisé, tout est à la même place, Frank, lui, c'est décide qu'il veut ajouter une géolocalisation aux articles, aux images, à n'importe quel objet dans Tiki. Il peut tout corriger, les bugs qu'il va créer en faisant, puis il y en a créé en faisant ça, il les corrige lui-même, et il peut ajouter ça. Tandis que si on avait eu un API, puis on n'avait pas pensé au début à l'API de mettre ça comme une fonction transversale. Oui, on a pensé, mettons, dans l'API, de mettre le search engine, on a pensé de mettre un certain nombre de choses, comment la gestion des users marche, comment la gestion des permissions. On n'avait pas pensé de garder une place de géolocalisation. Donc, aujourd'hui, je pense que ça nous donne plus de flexibilité que si on avait une API, puis là, on avait 400 modules, 200 ou 300 modules qui seraient là, puis qu'on ne pourrait pas dire, on ne peut pas.
C'est-à-dire que tu as un contrôle de la qualité à quelque part sur les. Mais et on ne
pas tout à fait d'accord aussi.
C'est pas la même chose.
Parce que je comprends ce que tu veux dire, puis ça fait du sens, effectivement, parce que là, grosso modo, ce que j'en retiens, moi, c'est que le fameux module, entre guillemets, cartographique qui est ajouté, il fait partie du corps maintenant, donc il peut être utilisé par l'Europe. Et d'un autre côté, ça arrive aussi avec Zoops, par exemple, au sens où il y a des modules qui n'existaient pas dans Zoops, qui ont été intégrés au cœur, ou en tout cas à l'install par défaut. Hein.
Par la suite. Mais c'est aussi un désavantage pour nous, parce que si, comme il y a beaucoup de modules, le jour où on évolue sur le cœur, le jour où on l'améliore, du coup, il y a beaucoup de modules qui ne fonctionneront plus. Tandis que toi, ça n'arrive pas vraiment.
Sauf que pour faire évoluer le cœur, il y a peut-être quelque chose à régler.
Il y a des avantages comme
ça. Ouais.
Mais les modules de Xoop ne sont pas tous stockés à la même place, tandis que dans. Ouais, sont répartis sur un paquet de serveurs, j'imagine.
Les modules? Ouais. Il y a un repository qui fait tous les modules. On sait que c'est pas tous les modules qui sont là parce que les originaux qui font un peu leur affaire de leur côté.
Mais je parle pour soumettre pour les changements dans les sources.
Ouais.
C'est pas un seul CVS, c'est pas un seul.
Ça fonctionne tout par SourceForge par le patch tracker. Donc, tu fais ton code, puis après ça, il fait partie. Ça, c'est un peu. C'est une autre philosophie, toi, parce que tu as 200 personnes qui travaillent sur le CVS. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur le CAR. Le jour, tu as des centaines de personnes qui travaillent sur les modules, mais le CAR en tant que tel, ouais, c'est jalousement gardé par ce qu'il y a des personnes.
Mais là, quand, mettons que tu veux implémenter la géolocalisation, tu te dis, je vais l'implémenter dans d'autres modules aussi, je vais m'arranger que ça marche de façon transversale. Mais là, tu vas pas que tu choisisses les modules toi-même parce qu'ils ne sont pas nécessairement tous actifs. Là. Je ne sais pas combien il y en a.
Moi, je vois ça comme pas mal de monde.
Tu plus.
Il y a des gens qui utilisent des modules Album Photo qui veulent ça.
Mais si tu en as trois modules d'Album Photo, tu vas upgrader lequel pour la géolocalisation?
C'est
vraiment.
C'est l'évolution.
Oui, mais c'est que ça décourage la participation.
Mais il n'y a pas de demande.
La participation. Une chose, c'est qu'en fait, si tu fais une amélioration significative pour tous, en fait, il y a peu de chances que ça arrive encore et que ça soit utilisé dans les autres versions. Je ne sais pas si c'est difficile pour Hack, par exemple. C'est un petit langage, ça fait longtemps que tu l'as sorti, il n'est pas encore dans les versions officielles.
Oui, mais il est dans les mégapacks, à tout le monde.
En fait, c'est les mégapacks, c'est les types qui sont des packs spéciaux, mais le
Non, mais je veux dire, ça, c'est un. Oui,
le MIL est intégré en France. Oui. Il est intégré dans le cœur, dans le fond, en France, mais pas les autres
services. Sauf qu'il va déboucher sur une réelle fonction multilingue.
Il va probablement déboucher sur quelque chose plus tard.
Qui, lui, devrait être intégré dans le cœur.
Exact. Mais ce qui arrive quand avec Zoof et le cœur, ce qui arrive, c'est qu'eux se sont fixés des standards de qualité. Puis si tu arrives avec une modification, il faut vraiment que ça soit selon leur standard. Puis, bon, ça peut poser des frustrations des fois, mais ça reste quand même des bons standards de qualité. Ce qui fait en sorte que le cœur de Zoof en tant que tel, on ne peut pas dire qu'il est en béton, parce qu'il n'y a rien qui est en béton, mais ça s'assure vraiment que c'est quelque chose de solide. C'est pour ça que le hack multilingue, il reste un hack. Qui n'est pas une fonctionnalité multilingue à 100%. C'est pour ça que ça peut encore être.
Oui, parce qu'il y a des downsides à ce hack qui est extraordinaire, parce qu'il fait la job au quotidien.
C'est ça.
Sauf que tu ne veux plus utiliser le cache. Parce qu'évidemment, quand tu restes, si tu as un cache et que la page était demandée en français, qu'elle est en français en cache, le hack, lui, il ne sera pas capable.
Et c'est pour ça que ça n'a jamais été intégré dans le cache. Ouais. D'un autre côté, moi, je trouve ça intéressant parce que j'aimerais pas voir dans le cache, dans quelque chose de très important de l'application, quelque chose qui ne fonctionne pas.
Mais d'un autre côté, aussi, tu vois le moyen détourné, le chemin parallèle. C'est qu'en faisant ça, ça a dérangé assez de monde pour qu'il y ait probablement, ça va probablement provoquer d'autres choses qui vont revenir au même résultat.
Mais si on regarde sur il y a un site de développeurs, tous les gens, un peu comme SourceForge, mais dans le fond, juste pour Zoox. Puis la release qui est la plus downloadée, c'est le hacking du magasin.
Voilà. Donc ça, eux, ils ne peuvent pas fermer les sites.
Ça intéresse
beaucoup de gens. Qui va le faire comme du monde? Là, il a été fait à moitié. Mm-hmm. Qui va faire l'autre moitié? Mais en fait, c'est pas une autre moitié, c'est de leur faire quasiment complet.
C'est une question d'ego. Des fois, c'est une question d'ego.
C'est pas juste l'ego, c'est une question de quantité de travail aussi. Ouais. Si tu as fait une patch, puis que là, tu l'as tout testée, elle marche bien, puis là, elle est refusée.
Mais je parle pas de son ego à lui.
Qui veut faire la dernière étape?
Non, c'est pas ça. C'est que dans ce cas-là, la patch, elle fait le travail dans le cadre d'une patch. Mais si tu veux intégrer au cœur, il faut que tu revoies toute l'architecture.
Sauf que moi, je sais
pas. Il y a le même problème avec le multilingue, d'ailleurs. Parce que quand tu veux intégrer le multilingue, toute ta base de données doit être revue d'une manière différente. Là.
Oui. Mais le plus efficace, c'est de s'attaquer au problème dès le départ. Le gros problème, c'est le core lui-même.
Oui.
Si tu passes trop de temps à patcher, comme juste pour que ça réponde à tes besoins, ben, ça améliore pas la situation.
C'est
ça. C'est ce que les gens du corps dans eux, qui prônent beaucoup. Quand on voit des gens, justement, qui ont fait des hacks comme ça chez eux, ben, c'est bien le fun, mais on essaie de les pousser, justement, à mener ça dans le cœur. C'est intéressant ce que vous faites. Il y a des standards de qualité à respecter.
Mais quand je parlais de l'ego, je ne parlais pas nécessairement de lui. Mais moi, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Où est-ce qu'un programmeur, il disait, moi, je ne ferais jamais ça, je ne touche pas à ça. Et quelqu'un qui faisait le hack, ben, t'es méchant, dégueulasse, là, tout ce que tu veux. Il était dans le début, une fois de plus. Non, mais moi, je vous parle des affaires mal faites, là. Puis là, le gars, il disait, là, moi, je peux pas penser que quelqu'un va downloader ça plus que mon truc à moi. Puis, en une semaine, il se le tapait. Il lâchait, il prenait une semaine de vacances pour aller. Les questions d'ego en programmation, là,
ouais.
Ça aussi, ça fait de la magie. Oui. Il faut savoir manipuler ça aussi.
Ça peut être la question. Par rapport à ce que tu as. Quand je te demande, je viens donner, donc, de quelle façon que je peux me branler, m'assurer justement que ça vient en plus de positif. J'ai un module, que ce soit un module, ça
en fonctionne.
Fonctionne un petit peu seulement. Quelles sont les étapes un peu prioritaire ou vraiment que ce soit fait.
Comment
contribue-t-on? Regardez, moi, hier soir, j'ai fait ça.
Oui.
Tenez, là, prenez ça, là,
puis
arrangez-vous que ce soit là. Parce que moi, l'ego va pas entendre le coup. Mais ça, c'est pas de faire.
Comment
tu fonctionnes?
Comment
tu fonctionnes? Ben, je pense, c'est ça, avec l'expérience, c'est sûr, que quand quelqu'un arrive et qu'il nous dit qu'il va tout régler, c'est notre problème.
Comme dans tous les autres domaines de la vie.
Je pense que c'est pas ça qui arrive. Les, ceux qui s'avèrent être les meilleurs contributeurs sur le long terme, ils arrivent au début, ils ont des questions. Ils vont juste poser des questions. Puis ils promettent rien. Ils vont juste poser des questions. Ils essaient de comprendre l'affaire. Puis à un moment donné, bon, nous, on est proactifs par rapport à donner nos accès. Tout ça. Donc, on n'est pas. Nous, ma théorie, c'est que les gens sont gênés de contribuer. Ils ne sont pas sûrs, là, c'est nouveau. Aussitôt que quelqu'un a l'air à vouloir contribuer, puis je pense aussi que ça s'est comme inculqué dans notre philosophie, dans le sens que c'est pas moyen qu'on est rendu à 270 personnes. Ça, c'est plus juste moi qui pousse pour ça. N'importe qui, c'est chatroom 24h sur 24, quelqu'un qui arrive peut contribuer, il se fait dire, ben, demande à un des admins, puis on est 8 admins, puis tu vas avoir des accès.
C'est assez rapide.
C'est rapide. Ben, moi, je me dis, en tout cas, c'est open source, c'est comme ça appartient à tout le monde, donc pourquoi est-ce que tout le monde ne contribuerait pas? Donc. Puis de toute façon, avec le CVS, c'est quoi les risques que quelqu'un va vraiment faire quelque chose? Sauf en arrière, s'il y a un problème. Donc j'aime mieux être plus. Pour être plus spécifique à ta question, si le monde, c'est, dans le fond, c'est bon, bien poser tes questions, bien. Et après ça, quand tu as quelque chose à contribuer, c'est de bien l'expliquer, bien le documenter. C'est genre, donc, si vous voulez prendre un gros morceau, tu règles une petite affaire. Puis
de l'expliquer pendant que tu le fais. Comme ça, tu peux corriger ton tir pendant que tu le développes.
Oui. Mais, c'est ça l'affaire, c'est de faire attention aussi de dire, ah, je vais faire ça. Puis après ça, de ne pas avoir le temps de le faire. Là. Puis aussi, c'est une autre, une des trois règles, là, tantôt, j'ai parlé un peu, c'est de respecter l'environnement. Donc, on veut dire par ça, c'est que quand tu vas prendre du code, ben, même si c'est pas, comme l'auteur original, il a dit, même si on n'est pas bon, au moins soyons constants. Donc, si tu vois du code, il est écrit de telle façon, les librairies sont comme ça, les abréviations, c'est comme ça, respecte l'environnement, fait qu'au moins,
il n'y a pas de standard, là, formulé au départ, pour s'écarter, parce qu'il y a des standards, mais c'est une situation, pas vraiment.
Ça doit dépendre des projets. Dans notre cas, quand il y a beaucoup de monde qui travaille, c'est le standard, c'est l'habitude de la personne qui l'écrit au début. Là. Mais je pense que ce qui est important, c'est si tu arrives aussi avec, c'est une solution. Parce que souvent, le monde qui sont là-dedans sont bien occupés. Fait que là, si c'est pas clair, si c'est un problème de plus, c'est pas quelqu'un qui m'aide à régler le problème. Mm. Pour vous autres?
Nous autres, si tu veux, comme Zoop est un aspect modulaire, généralement, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont développer justement un module qui va venir combler un besoin particulier. Et pour ça, ils ont mis en place un site qui est dédié à ça, comme son search. Et n'importe qui peut arriver là et soumettre et faire une demande pour ouvrir un projet. Donc, comme on fait sur SourceForge, on peut ouvrir n'importe quel projet. Donc, évidemment, il y a un certain contrôle qui se fait. Ça, c'est intéressant. C'est que les gens de l'équipe de développement vont vérifier qu'est-ce que tu veux faire comme module. Parce que moi, je sais que ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir une idée d'un module, puis là, j'étais tout prêt à le faire. Hey, c'était vraiment le fun qui était fait. Je me suis rendu compte qu'il était déjà fait mieux que ce que j'aurais pu faire. Au moins, ces gens-là, ce qui arrive, c'est que s'il y a quelque chose comme ça, ils vont faire ça. Ils vont faire déjà ça. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est la première place pour contribuer. La deuxième place, parce que souvent, ce qu'on arrive, puis peut-être Mathieu pourrait nous en parler, parce qu'il fait ça. C'est ça, c'est dans c'est que tu vas arriver à un moment donné, tu veux programmer quelque chose comme module, puis le core ne suffit pas. Le core ne te permet pas de faire ça. Alors, ce que tu vas faire, bon, tu peux le contourner par ton module, mais l'idée qui serait intéressante, c'est de le contourner par le core en soumettant justement une patch sur Source Purge. Puis celle-là va être incorporée un peu plus tard dans une prochaine version de route. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire, puis. C'est pas instantané, évidemment, c'est long parce que les versions, il y en a pas toutes les semaines. Mais ça va se faire avec ça.
Si on a besoin de faire pour voler, ils sont à combien de déchets?
Nous, la dernière qu'il y a eu, ça fait à peu près, je sais pas, 2 mois.
Oui, c'est les 2.07 au début de l'été. Puis après ça, 1.1, 1.2, 1.3 en l'espace de 3 mois. Puis là, c'est stabilisé.
La prochaine va être la 2.1 qui va être quelque chose de vraiment plus gros, puis c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc,
c'est
la mettons,
en tout cas.
Mais c'est efficace.
Entre la 1.7 et la 1.8 et la 1.9, tu peux avoir encore un suivi tout le mois, vraiment long. Après ça, par contre, entre la 1.7, la 1.7, la 1.7.2, ça peut être un mois et demi, deux. Souvent, ce qui arrive, c'est que le développement continue, puis à un moment donné, mettons, on a une alerte de sécurité. De mon ambassade pour faire un release. Puis encore là, ça vient à question des usagers versus des développeurs. C'est que, bon, tous les gens qui sont dans l'équipe de développement, tout le monde est sur CVS. Donc, vous autres, moi, ça fait combien de temps que je roule 1.9 et je n'ai pas sorti encore. Fait que, nous, c'est pour ça qu'on n'est pas super pressé d'en sortir une nouvelle version, parce que sortir une version, un release, c'est du travail. Tu fais ton packaging, tu fais des tests à neuf sur Windows, sur. Que tout s'installe comme pour. Fait que c'est souvent, c'est tous les événements qui nous forcent à
Avez-vous des testeurs dédiés ou est-ce que.
Pas dédiés, mais il y a beaucoup de gens qui testent. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. T'sais, ils ne sont pas des développeurs, ils ne sont pas des documentaires, mais ils sont excellents pour les développeurs. Et ces gens-là, on essaie de les faire sortir, justement. Et quand il y a quelque chose qui arrive, on leur envoie justement, et sur le site de développeurs, je parlais tantôt, comme sur SourcePoche probablement, tu as des membres pour chacun des projets, et certains membres pourraient être inclus dans la famille de testeurs.
Une des grosses frustrations que j'ai eues au début quand j'ai essayé de participer sur plusieurs projets, c'est que je refusais de me rendre compte que j'étais pas un bon développeur. Puis dans le sens que j'avais aucune patience pour un truc qui prenait plus que 1000 lignes de code, ça me perdait. Avec les hacks, ça, ou modifier le code de quelqu'un d'autre, si vous voulez, mais. Puis quand j'ai commencé à faire des bug reports, je me suis rendu compte que j'étais super bon là-dedans, parce que j'avais un background de développeur, fait que je pouvais leur parler. Puis en doc aussi. Puis traduction, bon, avec mes parents colombiens. Il y a une couple de logiciels que j'ai traduit au complet.
Non,
mais,
c'est
ça. Du point de vue développement, c'est ça. Mais je voulais savoir. Comme là, c'est facile à me dire, parce que bon. Ça part du développement, c'est ça la partie la plus visible. Mais les autres aspects, là, test, documentation, bug reporting, y a-t-il aussi des petits processus peut-être formels ou informels pour accepter des gens qui participent?
Nous autres, il n'y a pas vraiment de lien. Nous autres, il y a 280 personnes, tout le monde est sous le même pied d'égalité, mais c'est sûr qu'il y en a une centaine qui ont contribué au code, mais il y en a plein de monde qui font des bug reports. Typiquement, ça va être sur SourceForge, on va faire un bug report.
Okay.
Mais souvent, ça se règle plus vite que ça. En fait, nous, la communauté a vraiment changé beaucoup le jour qu'on a eu notre salle de chat hier. Parce qu'avant, bon, ça se faisait surtout sur SourceForge et bug report. Bon, tu mettais ça là-dessus, puis l'email, tout ça. Fait que les bugs, ça prenait une journée, mettons, à se régler. À cette heure, avec 50 personnes à tout moment sur la salle de chat, tu arrives là, tu poses ton bug. Premièrement, c'est un code train. Des fois, j'en ai eu un aujourd'hui, justement, je pensais que c'était un bug. Galerie d'images, j'ai mis une galerie d'images exposée privée,
Comment ça? C'est parce qu'avant, je m'étais logué, je pouvais l'avoir. Puis là, je sors comme anonyme. Puis je dis, comment ça que je la vois encore l'image? Ben, c'était parce qu'il y a du cache qui check si c'est. Bon. Je pensais que c'était un bug. Ça tombe, je savais qui avait écrit cette fonction-là. Je l'ai écrit. Bon. Mais sinon, j'aurais pu aller dans le chatroom. Ça aurait été le même type de réponse. Donc, tu as une réponse instantanée. Puis ça, ça a changé beaucoup. Les bugs peuvent se corriger en quelques heures. Là. Il y a quelqu'un qui a été fort dans le monde qui peut au moins corroborer ton bug. Puis, donc, il y a bien moins de choses. Il y a bien même des bugs qui se sont corrigés sans jamais se rendre dans la liste de bugs de SourceForge. Mais, je un peu sur la question de comment choisir un projet open source par cet angle-là, la question de la communauté. C'est là que les projets avec des communautés très importantes qu'on pose au 3, c'est là que tu sais que ton projet va être robuste, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'installations. C'est pas 50 000 sites dans le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a eu des bugs, il y a quelqu'un d'autre qui va les avoir vus. C'est pas très important de choisir une communauté très active.
Comme Microsoft, par exemple. Moi, je fais face à ça, puis je me dis, je rentre dans ces critères-là avec un projet que je suis admin, puis je devrais avoir démissionné depuis quelques mois. Puis oui, ben oui. Puis, parce que c'est un projet qui a des dizaines de milliers d'installations facilement. Puis, par contre, je sais là, que toutes ces installations-là, c'est des gens qui sont plus techniques. Puis pour eux, c'est « good enough ». Fait qu'ils vont jamais rapporter les bugs cosmétiques, documentation, installation. Jamais. Mais ça fait que le projet est rendu à un stade où est-ce que je peux jamais vendre ça à une entreprise. C'est vraiment pourri par rapport au standard de ce que tu installerais sur un desktop que tu veux supporter commercialement. Mais je ne suis pas capable de convaincre le développeur de honorer les bug reports, les documenter, les suivre. Il fait un release puis il dit « I fixed a ton of bugs ». En sécurité, là, en cryptographie, là, tu peux pas faire ça. Ben oui, il le fait. Puis pour tout le monde, c'est good enough. Fait que maintenant, oui, mais écoute, il y a plein de monde qui ont affaire de prendre son code puis personne ne le fait ben, parce que tout le monde trouve ça. N'importe qui aurait pu dire « Je fais un nouveau WinPT avec le code qui est là puis je le passe sur un autre projet parce que là, je t'ai gueulé. »
Ça va être une difficulté, justement, sur des projets que ce soit un ou deux qui ont le...
Ben non, parce que son code, il est publié jusqu'à un certain point.
Tu veux faire un fork, hein, on l'a dit.
Oui, tu peux faire un fork. Mais personne ne veut faire ça parce que, bon, c'est assez ça bon, ça fait la moitié de la job. Ouais. Fait que, puis, en fait, moi, j'ai personnellement, comme admin de projet, j'ai abandonné le projet. Ça doit être assez clair sur toutes les activités sur le projet. Mais ce qui est intéressant...
Tu t'es expliqué, excuse?
Non, même pas.
Puis, c'est très bon.
Mais non, ce qui est intéressant, c'est que, point de vue réputation, si on veut, hein, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut changer d'autre que, bon, tu fais une recherche sur mes mots-clés, tu vas sur mon site, tu vois que je suis rendu sur Linux. Puis d'ailleurs, tous les développeurs ou les gens avec qui j'avais démarré le projet sont tous sur Linux. On est arrivé pour. J'ai demandé à un gars, pourrais-tu refaire l'installateur? Parce que je n'utilise plus Windows. Pourrais-tu tester tes trucs? J'utilise plus Windows. Fait que, bon, je peux pas. Bon, ça c'est une autre histoire, mais pour revenir à comment tu choisis le projet, oui, je regarderai le nombre d'installations, mais aussi, c'est ça, tu branches sur ESC, c'est même moi qui a. Je fais semblant d'être le dernier des newbies qui pose une question vraiment idiote. S'il me dit en premier, lui, de faire une manuelle.
Moi, ça, c'est quelque chose qui.
C'est toute l'approche par rapport à ça.
C'est moi qui mets un lien vers le manuel dans le bon paragraphe.
Ben, oui puis non, dans le sens que...
Ça, c'est bon, pareil,
ce que tu as dit. Dans le sens que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui vient du monde Windows, puis ça t'attend, tout à l'heure, j'en parlais, là. Moi, mon temps de... Mon temps de réaction, c'est une minute. Si en dedans d'une minute, c'est pas ce que je veux, là, il y a un problème. Soit de site web, soit de canal IRC qui n'a pas assez de monde, soit de bug reporting qui n'est pas bien fait, soit de documentation, soit de demande qui n'a pas assez de monde. Donc, personne, tout le monde dit c'est correct, là, on s'en fout. Fait que, en une minute, là, c'est ça, intéressant parce que, en partant de site, c'est quoi, OpenCRS.com?
C'est
Open Source. Mais pour terminer, moi, il me semble que. ces projets-là, tous ces projets-là, ça s'adresse quand même beaucoup à des développeurs. Si tu es développeur toi-même, tu te ramasses un Xoops ou un Tiki ou n'importe quoi d'autre, tu sais que tu vas être capable de déprendre si jamais tu es mal pris.
Je pense que ça s'adresse aux power users.
Ouais. Oui, ben, aussi. Ouais, mais parce que moi je me considère comme un power user, je suis webmestre, je suis un communicateur à la base, mais je bidouille beaucoup dans toutes ces choses-là. Puis j'ai de la misère avec ça. Puis à un moment donné, ça me prend du support, ça me prend des gens pour supporter. Des gens que je vais être prêt, c'est sûr, si je fais un truc pour chez nous, il faut que ce soit gratuit. Mais si je fais un truc pour ma compagnie, je peux payer, tu comprends?
Oui, mais ça prend des outils aussi, dans le sens que moi j'aime bien quand ça s'adresse à moi en tant que pseudo-développeur, consultant, IT, sécurité, bon. Mm-hmm. Mais moi je veux aussi là, le temps de réaction de une minute. Là, mon client me dit, t'as-tu un one-pager qui m'explique bien qu'est-ce qu'il fait le projet? Ça n'existe pas pour 90% des projets open source qui m'intéressent en ce moment.
Est-ce que tu es capable, par exemple, de dire à ton client, regarde, tu as tel besoin, je connais un système open source qui fait les trois quarts de ça.
Je peux l'expliquer, mais écoute, dans mon temps de réaction de une minute, là, s'il y en a un qui l'a, puis l'autre qui ne l'a pas, je vais peut-être me concentrer sur
ce qui l'a.
Même chose pour l'installation. Je lisais sur le site de WordPress, là, il disait, bonjour tout le monde, la nouvelle version, puis à la version 1.2, qui est arrivée. Je dis, bonjour tout le monde. Depuis que le temps d'installation est passé de 5 minutes à 30 secondes, on a plusieurs nouveaux millions d'usagers, alors on s'excuse si le site est un petit peu fait, qu'est-ce que moi, je suis sur Dreamhost pour mes besoins de hosting personnel. Puis, dernièrement, ils ont ajouté l'option d'installer automatiquement WordPress. C'est le seul script externe qui est accepté, qu'ils ont configuré pour configurer automatiquement. C'est-à-dire que c'est plus 30 secondes, c'est 5 secondes.
Mm-hmm. Puis c'est directement disponible dans ton interface d'hébergement.
Oui, dans l'interface d'administration. Titre du blog, répertoire, go, datif, zéro configuration. C'est ça qui est intéressant. Mais le même aspect par rapport à bug reporting. Moi, je fais des rapports de bug sur Mozilla, l'enfer. Ton bug, il reste en new, sans aucune révision, sans rien, tant que tu ne suis pas les règles que ça fait. Parce que c'est un projet trop vieux, il y a trop d'attentes. Tu veux les faire, il y en a des règles pour tu mettre des bugs. Je vais sur d'autres projets, pas mal plus gros, Ubuntu Linux, là. C'est un petit peu plus gros que l'application Mozilla. Mon scanner ne marche pas. Puis là, il y a quelqu'un qui est intéressant. Moi, je pensais que quelqu'un allait m'envoyer 3 minutes. Mais j'ai vu d'autres bug reports, j'ai dit, c'est ça le style? OK. Quelqu'un a payé. OK, quelle sorte de scanner que ça? Ainsi de suite. Bien, peut-être dans 2 ans que ce soit plus facile. Peut-être que vos bug reports sont plus faciles.
Ben, quand c'est facile à répondre, le développeur il voit la question. C'est le temps de taper la réponse, send, puis c'est oublié, le développeur il oublie ça. Non?
Dans
le
temps
de
développeur, si tu es trop paresseux pour bien formuler ta question.
Ouais.
Je pense qu'il faut essayer d'arriver dans cette communauté, c'est que c'est ça soit pas tout le temps les mêmes personnes, les mêmes personnes qui donnent les réponses, puis donnent le support technique, puis l'autre. C'est un niveau de connaissance que tu as. Il faut inculquer aux gens qui s'impliquent. Au début, oui, tu poses des questions, oui, tu t'impliques, mais maner.
Faut que tu redonnes.
C'est ça. Ouais. On s'attend à ce que tu nous aides avec la doc, que tu répondes aux autres. Le monde, généralement, s'ils aiment ça répondre, si j'ai mené à la question, tu parles dans ta liberté, qui savent la réponse.
C'est ça le gros défi de l'open source en fait, c'est de faire en sorte que tout le monde dans l'arbre d'utilisation et de développement soit capable de redonner quelque chose.
Il faut garder l'ambiance positive.
Il faut que tout le monde comprenne que c'est pas gratuit, que tu as ta part à faire, qu'elle soit monétaire, du style je fais un don, parce que avec Taberno, j'ai monté un projet dans le sens de me dire j'ai économisé tant, je fais un don. Ouais. Lui disait tantôt je travaille avec ça. Je travaille 8 heures, je paye 8 heures, je vais donner une heure de don. Ou alors dans mon cas, moi j'ai monté un site avec Marc-André. Moi j'ai utilisé Xoops gratuitement. Tu vois, j'ai monté un site avec Xoops, ça a très bien marché. Et puis après ça, j'ai été chercher Marc-André pour me faire un module qui manque, tu vois. Donc, et là, j'ai un cas d'école, je paye pour ça.
En même temps, si tu n'as pas le temps, moi c'est ça, Mais en ce moment, c'est ça. J'ai pas le temps. Bon, ben, je mets 50 pièces là ou 100 pièces là.
Puis la même chose, je suis pas développeur, mais je peux peut-être documenter, je peux peut-être faire des saisies d'écran, je peux peut-être traduire, je peux peut-être essayer de faire quelque chose dans la mesure de mes moyens.
Mais la plupart des gens, je pense,
mais est-ce que vous ressentez ça, justement, est-ce qu'il y a un retour, je ne parle pas des développeurs, mais de la communauté des utilisateurs, est-ce qu'il y a vraiment des relations intéressantes et un retour?
Oui, si tu regardes les forums, je parle pas aux autres encore, si tu regardes les forums, souvent il y a des newbies qui arrivent et qui posent des questions, qui ne savent pas trop quoi faire, mais qui ont une réponse ratée, qui sont vraiment heureux avec ça. Souvent, les commentaires qu'on voit, c'est « j'ai hâte d'être capable de vous donner un petit peu. Mm-hmm. J'ai hâte d'être capable d'en connaître assez pour répondre aux questions ou pour vous aider sur la doc. » Moi, quand j'ai commenté…
C'est ça, le renouvellement.
C'est ce qui fait tourner la roue, puis c'est ce qui fait qu'il l'améliore. Moi, quand j'ai commencé à découvrir les Zooms, j'ai été halluciné, moi aussi. Puis mon premier réflexe a été « j'ai vraiment hâte de pouvoir vous aider. » Comme je n'avais pas de connaissances à cette époque-là, je me suis dit, bon, c'est quoi la seule affaire que je suis capable de faire, des traductions. Donc, M. King ici est allé me chercher, il était capable de faire des traductions, ça va être excellent. J'avais déjà commencé à vouloir redonner. Je pense qu'il y a une grande majorité des utilisateurs qui veulent faire ça. C'est sûr qu'il y en aura tout le temps
des profiteurs.
Tout le monde, hein. Mais en général, ça, je pense que c'est ça qui fait marcher le moteur de search.
Moi, je ne sais pas trop, je trouve que les gens me répondent souvent sur les forums. Il y a des gens qui font de la traduction, qui font
Et surtout qu'on a une application suivie.
C'est beaucoup d'efforts.
Ouais.
De traduction encore, ça peut aller, on en trouve. Mais en dehors de traduction forum, le reste,
plus c'est ça, plus c'est compliqué.
Et puis il y a le problème, parce que moi, en tant qu'utilisateur, je le sais. D'ailleurs, j'avais commencé à faire de quoi pour Zoom, puis j'ai arrêté parce que j'étais mal pris à un moment donné. Et là, il faudrait que je m'y remette, mais tu sais, il y a d'autres affaires à faire, il y a toujours des choses. Mais c'est ça, c'est d'avoir une constance, c'est-à-dire... Faire une traduction, c'est facile, ça ne prend pas de temps, ou un petit bout de doc, tu le fais, tu dis, ah ben là, j'ai redonné, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as appris aussi en le faisant, tu as appris comment le faire. Donc si tu es capable de tenir le cap, tu vas devenir vraiment une pierre angulaire importante. Et souvent, tu le fais une fois, deux fois, puis tu abandonnes, tu sais.
Oui, un des points importants pour un admin de projet comme ça, c'est que, typiquement, les gens qui sont en charge de projet sont programmeurs. Pas nécessairement bien intéressé par la gestion, par le marketing, par la documentation. Donc, mettons qu'il arrive quelque chose, leur premier réflexe, c'est de le programmer. Donc, c'est pour ça que des fois, les équipes grossissent pas nécessairement vite, le marketing n'est pas très bon pour la documentation. Donc, je pense que c'est important pour l'idée d'un projet open source pour qu'il atteigne un certain envergure, c'est d'être très proactif dans le recrutement. Donc, si oui, il y a quelque chose qui peut être, ce serait pas nous. Au lieu de le faire nous-mêmes, c'est de trouver quelqu'un qui va le faire. C'est de recruter. Quelqu'un à un moment donné a promis qu'il allait faire quelque chose.
Tu le relances.
Tu le relances. Donc c'est d'être très proactif.
Ouais.
C'est de demander. Ouais. Demander parce que les gens sont
là. Faire un suivi. Ouais. Parce que tu vas. Ouais, moi.
Tu demandes.
Ouais.
La plupart du temps, ça ne donne rien. Mais avec le temps, tu réussis à avoir assez de monde qui ont une certaine expérience. Des fois, moi, je pense à ça. Je vois des gens arriver, des constructeurs arriver partir. On y arrive. Ils y aident, ils disparaissent. Puis ils n'y pas nécessairement parce que c'est la grandeur de leur âme. Ils arrivent, ils ont eux autres qui ont le projet. Il faut qu'ils règlent une telle affaire. Puis en réglant pour eux, ils en profitent pour partager ça avec l'ensemble. Là, ils repartent, le projet est fini. Mais à chaque fois, ils ont contribué.
Ouais, c'est une bonne chose aussi.
Oui, puis eux autres, ils ont une certaine expertise. Mm-hmm. Quand quelque chose de spécifique, leur code, il y a un problème avec leur code.
C'est l'idée que l'open source répond à 90% des besoins, mm-hmm. ce qui est l'équivalent de près Windows.
Ouais.
Puis le 10%, ben, si ça ne le fait pas, tu le fais.
C'est ça. Tu le fais faire.
Tu le fais faire. C'est ça donne ce genre de contribution.
Puis,
question,
est-ce que, comme là, si je comprends bien, vous avez des clients qui utilisent. Commercialement, là, offrir des services d'installation ou de consultation autour de ça. Est-ce qu'il y a des clients qui ne sont pas à l'aise, exemple, qui font faire des trucs en plus et qui ne sont pas à l'aise de remettre ce code-là? Comment vous négociez ça? Comment vous présentez
ça? Ça va un peu à la question de comment vous gagnez votre vie avec ça. Moi, c'est la moitié des clients que j'ai, ils ne savent même pas c'est quoi l'open source. Ils ne savent pas. Eux autres, tous ce qu'ils savent, là, ils veulent un site web, qui veulent
une solution, ce qu'on disait l'autre fois.
Puis après ça, c'est moi qui sors de bord et qui choisis mes solutions en fonction. Puis moi, c'est là que je trouve ça intéressant, open source, parce que
un client, ça va, mais quand tu le craignes, c'est ça de payer par un exploit pour un débutant. Donc, le client, la plupart du temps, il ne sait même pas, il s'en fout. S'il y a des clients qui sont un peu plus demanding, ont plus de questions, ils veulent plus comprendre, là, il peut avoir justement la question de l'open source, ou mais tu pourrais être dans le risque sur Spark, tu n'as pas besoin de moi. Là, c'est là que j'explique plus la question de que eux, ils pourraient choisir une application commerciale, de la même façon que la compagnie de qui achète l'application, elle pourrait faire faillite, elle pourrait s'intéresser à ça, ou qu'ils choisissent comme il faut leur produit. Moi, ce que je leur dis, c'est que j'ai une communauté qui est en arrière de moi, si tu veux. J'essaie de leur expliquer ça. C'est comme si c'est une coop, une coopérative de développeurs qui se mettaient ensemble pour travailler ensemble sur un projet commun. Donc, on contribue chacun un peu, mais on en retire tous beaucoup plus que ce qu'on en contribue. Puis, ça, ce que ça fait, ça, le client, lui, qu'est-ce que ça lui donne? C'est que si moi, je ne suis pas disponible, ou s'il n'est pas content avec moi, ou si je coûte trop cher, il peut trouver un autre développeur qui va pouvoir reprendre ces choses. Moi, je m'assure qu'on se fait un backup. C'est plus besoin de moi. Je vais travailler vers un truc, l'idée, c'est que le client puisse continuer. Mais dans la vraie vie, là, l'important, c'est la relation client. Enfin, la technologie, là, le monde, là, il te regarde dans les yeux, là, puis tout est mon gars de pays. Mon affaire de site web, là, c'est toi. Puis après ça, là, le reste, lui négocie, c'est le prix. Puis après ça, là, une fois que la relation est regardée, il ne demande même pas c'est quoi le prix. Tu sais, tu appelles, tu règles leurs affaires, c'est des clients à lui.
Mais c'est pas vrai,
hein,
c'est les projets commerciaux que le corps des clients sont enfermés. La plupart des projets que les sociétés sont enfermés, c'est que le corps des clients, c'est notre ressource, mais sur une copie. Eux peuvent, en cas où la porte est différente, ou ils ont des problèmes avec nous, mais on doit pas avec nous.
Ben ça, c'est le modèle propriétaire traditionnel.
Ça dépend de la licence, c'est ça. Comme nous, pendant 5 ans, on développait un PHP, c'était tout du propriétaire, mais chaque client a la licence à obtenir le code.
Et puis du propriétaire, ça veut dire c'est du propriétaire, mais il n'est pas...
Il y avait des restrictions.
Il est pas supporté ailleurs, personne d'autre qui le connaît.
Il n'est pas compilé.
T'es poigné avec.
C'est assez bien cher à faire un suivi là-dessus.
C'est ça.
Faut que tu convainques quelqu'un de
venir t'aider. Ma question, c'était plus...
On va prendre une bière. Section.
Où on va prendre la bière. Elle tourne pas.
Exemple, si en parlant de la géolocalisation, c'est un client qui avait dit, moi là, je veux faire ça, puis personne d'autre va le faire.
Ben là,
je veux que personne d'autre l'ait, puis je veux que tu le fasses pour moi dans
tes... Je le garde à toi. Ah, donc, mais si ton client te demande ça?
Moi, personnellement, quand un client dit ça, je dis, ben... Si ton succès ou ta compagnie ou ton modèle d'affaires repose sur un bout de code,
ça ne prendra pas long. Ça prendra pas long.
Si tu me dis, moi j'ai installé tel logiciel, est-ce que tu penses qu'eux ils vendent uniquement à toi et personne d'autre?
J'en ai eu un client comme ça, que son code était assez particulier. C'était comme une espèce de.
C'était quoi,
un peu de répertoire assez spécifique pour ses besoins. Donc, il y avait deux raisons. Un, il ne voulait pas nécessairement le... Je pense que j'aurais pu le convaincre de le réussir en disant que ça va être supporté par la communauté, que ça aurait été... C'est-à-dire, il aurait fallu rendre quelque chose de plus générique que c'était. Mm. Lui n'était pas nécessairement prêt à payer la différence sans avoir son affaire spécifique qui marche pour lui, puis de le rendre générique pour que ça puisse fonctionner.
Dans ce cas-là, ce n'est pas un avantage. C'est même pas un désavantage que ce soit l'autre chose. C'est même pas quelque chose... que n'importe qui pourrait utiliser.
Pas dans sa forme, là.
Pas dans ce
mais qu'est-ce qui s'est passé au final?
Ah, ben, ça marche à côté. On a fait des hooks dans Tiki aux bonnes places. Donc, si on a fait fonctionne à côté, ça sera de base de données. Puis, quand tu t'enregistres dans le Tiki, normalement, tu cliques, je suis new user, puis là, c'est fini. Puis là, il t'envoie une autre page dans l'autre application. Tu remplis l'autre formulaire, plus. On s'est arrangé pour que ce soit future-proof. Parce que moi, ce que je voulais certainement pas, c'est d'avoir à chaque nouvelle version de Tiki,
changer le hook.
Là, ça serait facile de le convaincre de contribuer. Ça va se maintenir tout seul.
On l'a conçu comme ça, puis ça marche bien.
Pour revenir à la base du sujet des CMS,
par exemple. Je pense que la viande,
c'est un peu l'open source. C'est quelque chose d'intéressant, je pense, à chacun de faire une petite démarche pour populariser les CMS, les blocs d'affaires. Parce que moi, j'ai discuté avec des gens. Il y a eu des surprises.
public, là, maintenant, il y a du tactique et du numérique. C'est encore dans les collèges, on a des endroits où on a ça, un petit tactique, là, c'est-à-dire qu'on est avec un logiciel.
On ne parle pas les écoles, c'est
sûr. On fait des pages web. Donc, j'ai un ami qui m'est arrivé, il m'a dit, je vais te donner une adresse web, mon site web nouveau bêta, c'est commercial. Là, j'étais allé. Il me dit, ah oui, il dit, je te demande quelque chose, fais moi des commentaires. Premier commentaire, je dis, tu es fini, tu peux les trois sites. C'est quoi ça? Je fais donc de l'éducation, puis on va y donner. 35 erreurs, c'est une page qui est à peu près quelques 20 minutes. Là, il m'a expliqué un peu.
J'arrive à dire,
et il n'y avait aucune notion de la différence entre tactique et vraiment ce que c'est de dynamique, quand même maintenant aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, en fait, un test là-dessus, il y avait un salon sonore pour formation il y a quelques mois. Puis là, je suis allé à ça. Puis là, je me disais, je me faisais passer pour quelqu'un, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui vendait des cours d'informatique. Ouais. Dans des instituts, des choses comme ça, collègues. Fait que là, bon, j'allais au kiosque. La première chose, il essayait de me vendre de participer à ces formations-là. Je regardais tout ça. Premier constat, dans les plans de cours là, des CMS, là, peut-être qu'il y en avait un sur 10 ou quelque chose, mais vraiment, c'était très rare. Bon. Ça, il ne faut pas leur citer la fille qui était là, qui me donnait ça. Finalement, elle est là la fin de semaine, elle ne sait pas. Fait que je posais des questions,
oui.
Aucune idée. Typiquement, ce qui arrive, c'est que ceux qui enseignent, les formations, ça a souvent au moins un an de retard sur la réalité. Mais dans le monde des CMS open source, là, un an, là, c'est beaucoup de temps. Donc, mais je pense que moi, j'étais triste de penser ça. Il y a des gens qui vont payer 2, 3, 4 000 piastres, 5 000 piastres par année pour aller prendre des cours, puis ils vont apprendre à faire
ce qui est déjà bien passé.
Comme moi, j'ai fait ça il y a 5 ans.
C'est ça. Ça, je pense qu'ils vont avoir du travail, puis que ça va être rémunérateur, parce qu'à un moment donné, ils vont se réaliser. Il y a autre chose là, qui va être.
Donc, ça, je pense que, je
ne
sais pas,
c'est quoi? Non, c'est gravement fini. La vision des graphistes, c'est génial, un graphiste.
Le ministère qui impose le programme. Parce que tu veux, si moi, je suis école, là, faire un truc, là, j'envoie le curriculum au ministère. Le fonctionnaire va prendre 3 ans pour l'adopter. Uh-huh. Une fois qu'il l'adopte, il revient chez toi, puis, etc., puis il y a encore des questions.
Ça, c'est pour les étudiants qui sont là, parce que quand ils vont sortir de là...
Il y a un brave prof de maths de l'école de ma fille qui m'a appelé la semaine passée parce qu'il était mal pris. C'est l'école FACE, à côté face.cfdm.qc.ca. Puis, parce que dans sa page d'accueil, là, il voulait changer un petit truc de rien, là. Et il n'était pas capable, ça cassait tout. Puis là, je me suis rendu compte que c'était une page qui avait été faite avec Dreamweaver et comment ça s'appelle le truc graphique de Dreamweaver, là?
Flash.
Fireworks. Donc, c'est un graphiste qui a fait un beau design dans Fireworks, c'est magnifique. Puis là, il a dit, fais-moi ça une page web de ça. Et là, c'est pas travaillable. Tu peux plus t'en sortir, c'est des tableaux imbriqués dans des tableaux avec des rose spam, cold spam. Mais moi, je suis aussi un parent, puis moi, je dis, on va vous faire ça dans un CMS.
On leur explique ça, c'est ça. Ils sont tous surpris.
L'école.
J'avais une question peut-être pour...
Mais ça prend, c'est fou.
L'école, il y avait beaucoup une tendance de... Tu parlais des thèmes tout à l'heure. Je vois qu'il y a beaucoup une tendance, un peu comme il y a eu une génération de projets open source qui étaient uniquement des programmeurs. Un peu plus tard aussi, il y a du monde qui ont fait de la documentation, de la traduction. Moi, j'en vois maintenant que c'est des professionnels des interfaces graphiques, designers, des professionnels du marketing, puis ils ont mis dans le marché. Ils n'ont jamais codé une seule ligne de code de leur vie. Entre autres, dans Mozilla, il y a beaucoup de gars comme ça. Ils sont engagés, payés, puis spécialement presque fabriqué pour attaquer ces problèmes-là. Commencez-vous à voir du monde qui sont comme ça dans
On a deux exemples. Eux autres, ils ont étudié en administration. C'est pas des programmeurs.
Non, n'empêche qu'ils codent quand même.
Ben, plus ou moins.
Mon cas, c'est plus des bugs fixes qu'un modifiable.
Mais ça t'explique pas de la catégorie.
Non, ben, c'est mon père programmeur. Fait que je fais ça,
mais ton rôle, c'est pas de programmer.
Non, mon rôle, c'est pas. De toute façon, moi, je suis capable de faire un petit peu de programmation, mais à chaque fois, il y a plus de besoins au niveau du marketing du projet qu'au niveau de la programmation. C'est beaucoup plus facile de recruter du monde pour écrire du code que pour leur dire
c'est pour gérer
le projet.
On a la même chose avec Zoo, c'est le leader du projet, présentement, c'est pas un développeur.
Okay.
C'est juste quelqu'un qui est bon en PR, qui est bon à aller chercher le monde, à avoir une vision et à rallier le monde dans cette vision.
Ok, donc c'est plus le, comme on disait tout à l'heure, le programmeur.
C'est ça,
plus lui le leader.
Non, avant, c'était effectivement le leader, c'était le développeur, puis il gardait ça toute la vie. Okay. Si les gens l'aimaient pas, ben, ça crée la table, ça peut donner des fois.
Donc dans les rangs aussi, il doit y avoir de plus en plus de
gens. Ça paraît. Quand tu parles d'exemple de Mozilla, depuis 6 mois, quand tu vois sur le site web de Mozilla, puis l'interface de Mozilla, ça a fait beaucoup de chemin. Là. Ouais. Ça paraît là, qu'il y a du monde qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment nice, ça sert. Mm-hmm. Bon, c'est un peu...
Non, mais c'est ça, il y a
un nouveau logo.
Il y a beaucoup de gens, comme on parlait du mot gratuit tout à l'heure. Ah oui, le navigateur gratuit. Bien, mais ça coûte à la Fondation Mozilla, il y a rien de gratuit là-dedans.
Alors, si vous êtes d'accord, je propose qu'on arrête là pour l'instant, mais qu'on puisse continuer au bistrot pour ceux qui attendent.
Tu baisses le monde. Est-ce que des gens qui auraient utilisé sur Linux Skype pour son iPhone? Oui. Oui, non, oui. Ok, c'est à cause que j'ai une machine avec un vidéo là, qui vient de voir la plaque. C'est que le son, c'est une carte de lune, au complet. C'est que le son est complètement saccagé. Oui, c'est un son là, qui
est
checking. Le microphone n'est pas par rapport. Parce que quand je m'en vais dans l'eau, c'est pas fini.
Je
vais
juste donner des cartes. J'organise un gros party chez nous.
Ah!
Alors, les gens de la communauté du livre sont invités.
Yeah! Même les groupiens sont invités?
Regarde ça.